Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la guerre en Ukraine entrée dans sa quatrième année. À cette occasion, plusieurs dirigeants de pays alliés de Kiev sont sur place pour réaffirmer leur soutien. Emmanuel Macron, lui, est à Washington. Il doit faire des propositions d'action commune à Donald Trump. En Allemagne, le conservateur Friedrich Merz, vainqueur des législatives, est le très probable prochain chancelier. Sa priorité absolue est de doter l'Europe d'une capacité de défense autonome. Dans ce journal aussi, la visite de François Bayrou au Salon de l'agriculture à Paris. Le Premier ministre salue un climat positif avec les syndicats agricoles. Et retour sur les 9 mois de cavale de Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France. Elle a pris fin samedi en Roumanie. C'était il y a tout juste 3 ans. La Russie lançait une offensive qui a fait à ce jour des dizaines de milliers de victimes et amputé l'Ukraine de 20% de son territoire. En ce jour anniversaire, plusieurs dirigeants étrangers sont à Kiev, donc pour réaffirmer leur engagement. Emmanuel Macron est lui reçu à Washington par Donald Trump. Le président français doit lui présenter des propositions d'action pour conjurer la menace russe en Europe et garantir une paix durable acceptable par Kiev. Côté russe maintenant, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en visite officielle en Turquie. Il a précisé ce matin à Ankara les conditions dans lesquelles son pays pourrait négocier la paix.
Le président a clairement dit que nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine et l'Europe, avec tous les représentants qui, de bonne foi, voudraient aider à parvenir à la paix. Mais nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations auront donné un résultat ferme et durable qui convient à la Fédération de Russie. Et bien sûr, les réalités sur le terrain doivent être prises en compte.
Le ministre russe des Affaires étrangères, propos recueillis par Anissa El-Jabri. En Allemagne, Friedrich Merz, chef de la CDU, vainqueur des législatives hier, et qui donc a toutes les chances de devenir le prochain chancelier. Friedrich Merz a d'emblée affiché comme priorité absolue la création d'une capacité de défense européenne autonome, comme dit-il, alternative à l'OTAN dans sa forme actuelle. À Paris, le défilé des personnalités politiques se poursuit au Salon de l'agriculture, autour ce matin de François Bayrou. Valérie Gasse, vous êtes sur place. Bonjour Valérie.
Bonjour Gilles.
Comme le président de la République samedi, le Premier ministre a commencé par une rencontre avec les syndicats agricoles.
Oui, François Bayrou a eu un long entretien de plus d'une heure avec les représentants des agriculteurs avant de commencer sa déambulation. Et il s'est réjoui de la teneur de leur discussion, comme vous allez l'entendre.
On a rencontré avec toutes les organisations agricoles un climat très positif. Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, on en est loin. On a à résoudre les problèmes des prix, du revenu, qui est le problème le plus important. Les questions de l'eau.
Cette année, l'objectif de l'exécutif, c'est de mettre en avant les efforts qui ont été faits, notamment avec l'adoption de la loi de programmation agricole, qui était une étape indispensable avant l'ouverture du salon. François Bayrou continue donc aujourd'hui le travail d'apaisement avec sa touche personnelle, celle d'un Premier ministre issu du monde rural, sa marque de fabrique, avec Oupette, la vache égérie du salon. Il s'est étonné que les photographes s'intéressent à lui plus qu'à elle. Détendu et souriant, sauf quand interrogé sur une plainte déposée contre lui dans l'affaire Betarame, il a redit « Je ne participe pas au scandale » avant de continuer sa visite.
Valérie Gasse au Salon de l'agriculture avec Diego Tenorio pour les moyens techniques. Merci à vous. La cavale de Mohamed Amra est terminée. On en sait plus maintenant sur les 9 mois de traque de l'homme le plus recherché de France, surnommé Lamouche. Arrêté samedi en Roumanie, il doit être remis aux autorités françaises dans un délai de 30 jours. Il était dans la cavale depuis sa spectaculaire évasion en mai dernier. Un commando avait pris d'assaut son fourgon pénitentiaire, tuant 2 surveillants de prison. Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Gilles.
Que sait-on de plus ?
Eh bien, on sait que Mohamed Amra, c'était tout d'abord un petit délinquant venu de Normandie. Première affaire à 13 ans, c'est un multirécidiviste mis en examen pour des chefs d'accusation allant de petits vols de supermarché, de rodéos urbains, jusqu'à des homicides et des tentatives de meurtre en bande organisée. Il est présenté dans la presse comme un narcotrafiquant parce qu'il serait impliqué à des affaires de drogue, mais aussi d'enlèvement et de séquestration. Les écoutes en prison ont révélé qu'il poursuivait ses activités à l'intérieur, qu'il utilisait la violence à distance pour tenir son réseau d'une main de fer. Mais cet aspect de son profil a été largement sous-estimé, si bien que son évasion a pris les services pénitentiaires de court.
Et c'est à ce moment-là qu'il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol après 9 mois de cavale. Il a donc été arrêté à Bucarest samedi par la police roumaine. Sur les photos de son interpellation qui circulent dans la presse, on le voit, Amélie, les cheveux et la barbe teints en roux avec de grandes lunettes. Est-ce qu'il essayait de passer inaperçu ?
Oui, ça c'est une transformation qui est assez sommaire, on le reconnaît facilement. On sait que les enquêteurs ont confirmé son identité grâce à ses empreintes digitales et à la reconnaissance faciale d'ailleurs. Mais on sait également qu'il avait dans l'idée de faire des opérations de chirurgie esthétique en Roumanie dans le but de s'envoler ensuite pour la Colombie. Selon les enquêteurs, c'était aussi un homme minutieux qui a le souci de la discrétion, un début de cavale sans faute. Et paradoxalement, c'est un manque de discrétion qui va le trahir. Les enquêteurs retrouvent la trace de sa puce téléphonique en remontant les nombreuses et fréquentes conversations qu'il avait avec son réseau. D'ailleurs, 10 personnes soupçonnées de lui avoir apporté de l'aide lors de son évasion spectaculaire ont été arrêtées entre la France, les Pays-Bas et l'Espagne. Cette histoire remonte, je le rappelle, au 14 mai 2024. Mohamed Amra est conduit à un rendez-vous chez un juge d'instruction par les services de la prison d'Évreux en Normandie. Arrivé à un péage, le fourgon est pris au piège et pris d'assaut par des hommes cagoulés qui tuent 2 surveillants pénitentiaires et récupèrent le détenu.
Amélie Beaucourt en direct dans ce journal. On reste en France avec le début aujourd'hui d'un procès exceptionnel en Bretagne, dans le Nord-Ouest, le procès de Joël Skouarnec. Il s'ouvre ce lundi à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan. Ce chirurgien à la retraite comparé pour viol et agression sexuelle sur pas moins de 300 victimes, 300 jeunes patients hospitalisés entre 1989 et 2014. Sans doute la plus grande affaire pédocriminelle jamais jugée en France. Parfois inconsciente au moment des faits, les jeunes victimes ont enduré de lourds traumatisme. À cela s'ajoute une procédure éprouvante de la découverte des faits jusqu'à l'organisation du procès, donc qui s'ouvre aujourd'hui. Reportage de Baptiste Coulon.
Des victimes sous anesthésie, d'autres parfaitement conscientes au moment des faits. Leur point commun, le refoulement, l'absence de souvenirs ou seulement quelques bribes, mais une vie d'adulte tourmentée.
Avec effectivement des impacts du style dépression nerveuse, anorexie, des troubles sexuels.
Francesca Satta est l'avocate d'une dizaine de parties civiles.
Vous voyez, ce sont des réminiscences de choses qui reviennent à la surface et qui ont permis effectivement de révéler un peu plus avant ce qu'elles avaient pu subir.
Ce que certaines victimes ont subi, c'est une amnésie traumatique, un trouble de la mémoire bien connu des psychologues et de Laura Morin, directrice de l'association L'Enfant Bleu qui s'est constituée partie civile.
Un traumatisme vécu enfant va avoir un impact sur toute sa vie d'adulte, puisque même s'il n'y a pas forcément de souvenirs, en tout cas le corps, lui, s'en souvient.
L'association a reçu des victimes de Joël Le Skouarnec et les a accompagnés avec des psychologues. Les psychologues, c'est en revanche ce qui a fait défaut au tout début de la procédure, quand ce sont les gendarmes qui apprennent aux victimes que leur prénom figure dans les carnets intimes du chirurgien.
La violence institutionnelle est une violence qui s'est ajoutée à ce qu'ils ont subi.
Marie Grimaud défend une 40aine de parties civiles.
Ça a été une annonce extrêmement brutale. Moi, j'ai des clients qui me racontent se retrouver à gare dans un état de sidération sur le trottoir, seul, ne sachant comment exposer ça à leurs proches. Et c'est le début d'un chemin d'errance et d'abandon complet.
Dans une tribune il y a quelques jours, les victimes représentées par Marie Grimaud s'insurgent de la longueur de l'instruction, de l'attente interminable, de la forte médiatisation de l'affaire.
Des clients qui ont retrouvé des journalistes dans leur jardin.
Une violence institutionnelle pour l'avocate jusqu'à l'organisation du procès. Une organisation complexe pour le petit tribunal de Vannes qui n'a eu d'autre choix que de louer une annexe à 300 mètres de la salle d'audience pour accueillir toutes les victimes.
C'est les rendre invisibles aux yeux de la cour, c'est les rendre invisibles aux yeux de monsieur Le Skouarnec et de ses avocats. Cette violence-là, elle est inacceptable.
L'avocate en est persuadée, plusieurs de ses clients sont découragés à l'idée de témoigner à la barre.
3-4 appels par semaine, maître, je n'y arriverai pas. Je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas légitime. C'est la première fois que j'ai autant à discuter avec mes clients sur le point de leur légitimité.
Qu'elles se sentent légitimes ou non, un procès s'ouvre pour que toutes les victimes referment le chapitre Le Skouarnec.
Baptiste Coulon, j'ajoute